à présent,
Frédéric Worms.
À présent et aujourd'hui, tout spécialement, l'importance de la socialisation avec Muriel Darmon et Wilfried Ligné. À présent, l'importance de la socialisation. Par ces temps de distanciation que certains disent parfois sociale et de confinement, on redécouvre l'importance de la socialisation. On redécouvre que le social n'est pas facultatif pour les humains, qu'il fait partie de nos vies. Mais justement, qu'est-ce que la socialisation? Jusqu'où va-t-elle? Le social est-il une ressource pour des individus qui existeraient déjà par ailleurs? Ou bien participe-t-il à la genèse même des individus que nous sommes en constituant toute notre vie, de la naissance et de la crèche jusqu'à la santé, le travail et même la mort. Quels sont alors les enjeux de la socialisation, ses effets sur nos vies, ses problèmes et ses projets politiques? Nous en parlons aujourd'hui avec deux sociologues, Muriel Darmon, directrice de recherche au CNRS et présidente de l'Association française de sociologie, auteur d'un grand classique sur la socialisation et tout récemment d'un livre de sciences sociales de la santé, Réparer les cerveaux, et avec Wilfried Ligné, chercheur lui aussi au CNRS et auteur tout récemment d'un livre intitulé « Prendre, naissance d'une pratique sociale élémentaire » qui se situe dans les crèches pour les tout-petits. L'importance de la socialisation, donc je suis très heureux d'en parler avec vous deux, Muriel Darmon, Wilfried Ligné, bienvenue à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Wilfried Ligné, bonjour Muriel Darmon qui est à distance, à Lille je crois Muriel Darmon.
Oui, merci. Merci beaucoup pour cette invitation et bonjour depuis Lille et l'écran de mon ordinateur.
Ah, l'écran de votre ordinateur et la voix qui passe par tout un tas de médiations. Justement, nous allons parler un peu de médiation, de relations, de pratiques sociales, de socialisation avec vous deux. Est-ce que vous avez été surpris l'un et l'autre? Je vais poser la question d'abord à vous, Muriel Darmon, qui avait écrit ce livre déjà classique, quelque chose comme un manuel sur la socialisation. Qui a eu plusieurs éditions. Est-ce que vous êtes surprise, Muriel Darmon, par les usages qu'on fait aujourd'hui de ce mot de socialisation, quand on dit qu'elle a été interrompue par le confinement, qu'il faudrait retrouver de la socialisation aujourd'hui, que les gens qui nous écoutent, qui sont chacun chez eux peut-être, justement sur des ordinateurs, sur des écrans, ils redécouvrent l'importance de la socialisation. Est-ce que ça vous surprend, Muriel Darmon, en tant que sociologue, puis d'abord en tant que vous-même, j'allais dire, en tant que citoyenne aussi dans le paysage d'aujourd'hui, Muriel Darmon.
Oui, merci Frédéric Worms. Oui, ça surprend un peu, c'est quand on travaille sur un concept depuis maintenant ça va faire 20-25 ans, ouais. Et puis qu'on le voit apparaître petit à petit davantage dans l'espace, dans les médias ou dans la parole publique, c'est vrai que ça surprend un peu. Alors ce qui surprend aussi, c'est que c'est pas toujours le sens que nous sociologues de la socialisation, on y met. Il y a une multiplicité de sens, comme quand on dit, mais là je laisserai plutôt mon collègue Wilfried en parler, mais que les enfants sont bien socialisés par la crèche, par exemple, ouais. C'est pas exactement le même sens que ce que les sociologues de la socialisation y mettent. Et en fait, nous, on voit moins le lien social derrière cette notion que, effectivement, la construction de l'individu par la société. Donc, évidemment, il y a des liens parce qu'on est construit, entre autres, par les autres. Donc, le lien social est une des bases, en fait, de cette incorporation du social en nous. Mais, disons, ce sur quoi on travaille et la signification que j'ai essayé de clarifier un peu dans, effectivement, le manuel, la socialisation, c'est le sens vraiment de l'incorporation de dispositions, la façon dont les individus en fait absorbent en quelque sorte leur environnement, leurs conditions matérielles d'existence et deviennent qui ils sont en quelque sorte incorporant, intériorisant le social.
Oui, donc c'est beaucoup plus profond que des relations au sens où justement les individus existeraient avant elles et les perdraient, seraient privés de certaines relations. En fait, vous définissez la socialisation, on y reviendra, comme je vous cite d'ailleurs, l'ensemble des processus par lesquels l'individu est construit, façonné par la société. Mais Muriel Darmon, avant de poser la même question à Wilfried Ligné, peut-être que le point commun malgré tout entre ces deux conceptions, celle qui aujourd'hui, disons, populaire, entre guillemets, et conception peut-être plus profonde de la socialisation, c'est qu'on s'aperçoit de son importance quand elle est ébranlée, je dirais. C'est-à-dire que là, il y a la pandémie quand même, qui brise à la fois des liens, bon, même si l'approche est un peu superficielle, mais qui change aussi ces processus, qui ébranlent. Et quand il y a cet ébranlement, tout à coup, on a l'impression que le social, qui est très souvent inconscient, bah, tout à coup, on en reprend conscience, Muriel Darmon, dans l'ébranlement.
Alors oui, Frédéric Vorm, c'est en fait nous autres sociologues et notamment de la socialisation, on voit le social un peu partout et tout le temps. Donc effectivement, nous n'avons pas cette surprise.
Ah oui, c'est comme les psychanalystes qui voient l'inconscient aussi, mais oui, c'est des professionnels d'un inconscient en fait.
Et c'est notre métier. Nous sommes même effectivement payés pour le voir, où il est, oui. Et en tout cas dans beaucoup d'endroits. Donc non, mais c'est vrai que là, il est ce que vous ou ce qu'on peut appeler le social est en quelque sorte interrogé, enfin rendu encore plus visible par le confinement, etc. Mais en même temps, l'homme sans société, enfin voilà, être solitaire ne veut pas dire être non socialisé. Et en fait, on porte, c'est un exemple classique de Norbert Elias sur Robinson Crusoe, en fait, sur son île déserte, et qui montre donc confiné hein, sur cette île déserte, Robinson Crusoe, en fait, a transporté en lui la petite société anglaise qu'il a fait naître et qu'il a constitué tel qu'il était. Et il vit selon l'heure anglaise, pourrait-on dire, hein, et même seul, même sans aucune horloge, sans maison, sans rien qui lui rappelle sa vie natale anglaise, il a transporté avec lui, dans son corps, dans ses habitudes, dans ses réactions, dans sa vision du monde, dans ce qui lui paraît nécessaire pour sa vie, il a transporté sa société.
Sa socialisation, en fait, même sur son île déserte, d'une certaine façon. Mais effectivement, il prend son thé à 5 heures ou pas tout à fait, mais même sur son île déserte, même sans Big Ben. Et du coup, la socialisation n'est pas une option, finalement. On est toujours dedans. Wilfried Ligné, vous-même, donc on va revenir sur votre travail aussi sur les crèches, sur la toute petite enfance. Vous êtes d'accord avec cette distinction, c'est-à-dire d'un côté une conception un peu facultative, qui peut se, comme s'il y avait une socialisation un peu à la carte, on y est ou on n'y est pas, et d'autre côté, un processus plus profond, dès le début, élémentaire, Wilfried Ligné.
Oui, il y a une distinction qui est d'autant plus difficile à pointer en essayant de défendre la vision sociologique un peu forte du concept, parce que effectivement dans la socialisation telle que nous on la comprend, construction sociale des dispositions ou d'une personnalité, eh bien il y a des aspects de ce qu'on appellerait plutôt de la sociabilité, en fait, c'est-à-dire des liens qu'on fait avec les autres. Par exemple, pour les jeunes enfants, dans ce qu'ils deviennent à 2-3 ans, il y aura pour un certain nombre d'entre eux les expériences qu'ils ont pu avoir avec leurs camarades de classe dans ce qu'on pourrait appeler plutôt un collectif plutôt que des relations sociales, parce que des relations sociales, ils en ont tout le temps. Et ils en ont tout le temps, même, c'est un peu ce qu'a dit Muriel tout à l'heure, même quand c'est pas des interactions, c'est-à-dire même quand c'est pas des relations directes. Parce que, il faudrait dire aussi que Robinson Crusoe, il parle anglais, par exemple. Voilà. Donc en fait.
C'est déjà social, ça, oui, évidemment.
C'est là, il hérite, en fait, de signes, de mots qui ont du sens par rapport à une communauté qui n'est pas là, mais qui agit encore sur lui, puisque, non seulement quand il va s'exprimer, en fait, il va utiliser un certain nombre de termes, mais aussi pour penser les nouvelles choses qu'il a à faire sur son île. Vraiment, je file la métaphore. Eh bien, en fait, il va peut-être utiliser des manières de penser typiquement anglaises, elles-mêmes informées peut-être, on ne sait pas, par la langue, les manières habituelles qu'il a de penser. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est effectivement d'essayer de défendre cette idée que, vous l'avez un peu dit, il n'y a pas d'aspect optionnel dans le social. C'est-à-dire que on peut pas, il n'y a pas des moments où on est plus sociaux que d'autres, on peut pas rentrer dans le social et en sortir. Par contre, on peut aller être pris dans des relations, être pris dans des institutions sociales qui sont variables dans le temps et dans l'espace, et c'est là qu'on retrouve des choses autour des crises sanitaires, par exemple, une crise sanitaire en tant que crise, et c'est un peu la définition d'ailleurs que les sociologues des crises donnent à cette notion, oui. Toute crise, c'est le basculement en fait relatif, hein, plus ou moins fort en fait, des relations et des institutions qui font le social.
C'est un basculement, vous voulez dire, les relations, les institutions sociales vont fonctionner différemment, c'est pas comme si on quittait le social, voilà. Mais le social va changer, la crise va avoir un...
Si c'est vraiment une crise, crise, ça va être un basculement, mais disons que c'est des recompositions, c'est-à-dire que c'est des choses qui, par exemple, des choses qui avaient peu de valeur, qui vont en avoir beaucoup, des gens qui étaient pas si importants, qui vont se retrouver. Vous voyez, alors l'exemple, ça serait les soignants, c'est-à-dire on les voit pas, puis on les voit beaucoup.
Oui, voilà.
Les médecins, on les voyait un peu à la télévision, puis on les voit beaucoup. Donc ça, ça concerne pas la vie directe de chacun d'entre nous, mais bon, on voit très bien que, par exemple, si on fait une sociologie, par exemple, des médias, l'effet crise, on voit les changements sociaux. Mais peut-être pour pas être trop long là-dessus, je dis simplement que ce qui est important pour nous dans ce concept de socialisation, ce qui fait peut-être que les sociologues de la socialisation que nous sommes, Muriel et moi, en fait, ont un petit peu d'ambition disciplinaire, c'est que derrière ça, il y a aussi la place des sciences sociales en général. Puisque si on commence à dire le social n'est pas optionnel, et qu'on dit que, en plus de ça, la socialisation, c'est la place du social en nous, c'est la place de la société en nous, telle qui fait qu'elle n'est pas extérieure à nous, ben, on se rend compte qu'il n'y a pas d'objet plus sociaux les uns que les autres, et que notamment beaucoup d'objets qui sont laissés d'habitude à la psychologie ou à d'autres disciplines, eh bien, les sciences sociales ont vocation à s'en emparer pour expliquer des manières de penser, des façons habituelles de réagir et ce genre de choses. Donc c'est assez important puisque ça fonde pour nous, en fait, la possibilité d'une grande liberté finalement intellectuelle. C'est très intéressé comme définition.
Oui. C'est-à-dire que vous voyez effectivement le social là où on le voit moins, et que par exemple une crise sanitaire pour vous n'a pas seulement des effets sociaux, j'allais dire en prime, elle doit être étudiée aussi sur ce prisme, même pour y répondre au fond sanitairement. On y reviendra avec Muriel Darmon qui travaille aujourd'hui beaucoup sur les sciences sociales de la santé. Mais pour revenir sur notre exemple initial et la situation où nous nous trouvons, qui explique aussi pourquoi on est là cet après-midi à l'antenne, au fond, Wilfried Ligné, quand même, malgré tout, si on interrompt une socialisation particulière, par exemple les écoles, la crèche, on va y revenir, si tout à coup on l'interrompt, on n'interrompt pas toute socialisation, mais quand même, on a un geste majeur, parce que ce sont des institutions, des processus majeurs, malgré tout, pour nous constituer comme individus, comme êtres humains, comme êtres sociaux que nous sommes.
Exactement. Je pense qu'il faut bien se rendre compte que la scolarisation, l'école, c'est le choix, entre guillemets, que fait une société, de dire que l'essentiel de sa socialisation va passer par un dispositif spécialisé qui s'appelle l'école, avec des formes particulières, par exemple des agents de socialisation formés, reconnus par l'État comme étant porteur d'un certain nombre de savoirs, relativement interchangeables, changeant chaque année l'une après l'autre.
Un groupe de... Une maîtresse, une autre maîtresse.
Voilà, un groupe, une classe.
Ils vont être très contents d'être appelés des agents de socialisation, Wilfried Ligné.
Alors que c'est quelque chose d'assez noble, puisqu'ils sont institués dans un rôle qui est, quand l'école n'est pas là, qui est dévolu aux parents. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez fort. Et ce choix, en fait, d'en faire des agents de socialisation, de dire qu'ils vont, en gros, pour le dire simplement, que ce sont des hommes et des femmes à qui on va dire, au fond, je vous laisse construire une partie, voire une bonne partie de ce qu'est mon enfant, ne serait-ce qu'en termes de temps.
C'est une mission majeure qui leur est confiée, finalement.
Ouais, c'est une mission majeure parce que elle devient majeure, et là on commence à rentrer un petit peu dans ce que c'est que socialiser, parce qu'il y a deux choses qui se croisent et qui donnent la puissance à leur action socialisatrice. C'est un, qu'ils vont passer beaucoup de temps avec les enfants, ça c'est une première chose, et deuxièmement, de manière très importante, qu'ils sont institués. Qu'on leur donne de la valeur.
Ils ont un rôle légitime. L'instituteur est institué.
Parce que socialisation, c'est pas seulement fréquenter. Il y a des gens qu'on fréquente beaucoup qui ne socialisent pas parce qu'ils sont pas légitimes à le faire. Ils peuvent nous socialiser, mais ça va être par défaut ou sans que ça soit. Donc je pense que ça, c'est un point important. Et donc pour finir la réponse, c'est qu'effectivement, en temps de pandémie, ce qu'on voit, des enfants qui vont relativement échapper à sortir de ce mode habituel, mais qui vont pas être envoyés nulle part. Du coup, ils vont être envoyés à un état presque précédent de la scolarisation.
Quelque part ailleurs, chez eux ou dans la rue, parfois.
Voilà, ça dépend. Et là, ça va varier énormément.
On reviendra sur ces effets aujourd'hui. Alors, Muriel Darmon, vous-même, dans votre livre sur la socialisation, on reviendra ensuite sur vos travaux plus récents, mais justement, vous distinguez la socialisation primaire et la socialisation secondaire, et dans la socialisation primaire, vous dites, peut-être même plus que la famille, j'ai l'impression, parfois, Muriel Darmon, vous dites, justement, il y a l'éducation. Et vous montrez que la sociologie, d'ailleurs, a toujours montré que, depuis, en France en tout cas, que l'éducation a un rôle social fondamental, Muriel Darmon.
Oui, merci pour cette question. Ce que je pourrais également ajouter, en fait, à ce que vient de dire Wilfried, c'est que il n'y a pas que les, et ça répondra en même temps à votre question, Frédéric Worms, mais il n'y a pas que les personnes aussi qui socialisent, en fait, dans un processus de socialisation. Et c'est là aussi où il y a cette déconnexion possible, entre le rapport aux autres et puis la socialisation telle qu'on l'entend. Parce que de fait, les objets, les murs, les institutions, mais au sens les murs des écoles, la séparation, là aussi, exemple classique chez nous, mais la séparation des toilettes, entre les toilettes filles et les toilettes garçons, il n'y a personne là qui éduque de manière explicite à la différence des sexes quand on se dirige vers une porte ou l'autre. Mais de fait, c'est un puissant dispositif d'apprentissage de la différence des sexes, en fait.
En général, on n'a pas chez soi, dans sa maison ou dans son appartement, par exemple. Non. On n'a pas des toilettes pour filles et pour garçons.
Vous avez, par exemple, sans doute, des petits rectangles bourrés de pages qui sont dans des bibliothèques et qui sont aussi des puissants instruments socialisateurs, éventuellement, ou voilà, un ensemble d'objets et de dispositifs de socialisation, même en l'absence d'autres personnes dans votre domicile. Donc ça, c'était juste, voilà, les institutions, effectivement, socialisent aussi les règlements. Là, on pourra éventuellement en reparler aussi sur l'écrit. En fait, l'écrit est un instrument socialisateur très puissant, en fait, sur lequel on reviendra peut-être quand on envisagera les consignes sanitaires plus tard. Donc ça, voilà, c'était une petite remarque. Et puis pour rebondir effectivement sur cette question de la socialisation primaire, bon voilà, il y a la grande tradition, on va dire française, de la socialisation à travers Durkheim insiste en fait sur le caractère tout à fait collectif de l'éducation par les parents et par l'école, c'est-à-dire et penser en même temps
finalement sur la fonction sociale de l'éducation qui consiste pas seulement à transmettre un savoir justement, mais aussi à insérer l'individu dans un collectif justement, comme vous
le dites. Faire devenir social en fait, y compris dans une version extrêmement Troisième République, de l'arracher de la non-civilisation ou de l'animalité pour le faire accéder à un statut et à des valeurs qui sont celles de l'homme tel qu'il est défini à ce moment-là. Donc il y a une vision tout à fait normative en fait qui est assumée à ce moment-là, que nous n'avons plus aujourd'hui, ou en tout cas dont on essaye davantage de se déprendre dans les usages qu'on fait du concept aujourd'hui, mais voilà, qui va insister sur la force de cette, effectivement, comme vous l'avez dit, éducation, c'est-à-dire avec un projet en fait éducatif et une explicitation de ce qui doit être et ce qui va être transmis. Et à côté, notre travail en tant que sociologue de la socialisation, c'est d'aller regarder aussi tous les moments, en fait, où on n'est pas dans l'éducation. C'est-à-dire où on est dans l'inconscience, à la fois du côté des éducateurs, enfin donc des agents de socialisation, qui ne sont pas conscients du fait qu'ils sont en train de transmettre quelque chose, qu'ils sont en train de
d'ailleurs,
montrer...
encore une fois, ils ne seront pas très contents forcément d'être nommés agents de socialisation, mais c'est très intéressant justement d'avoir cette discussion. Pardon de vous interrompre, Muriel Darmon.
Je vous en prie, c'est effectivement... Alors ensuite... en face, les agents socialisés trouveront sans doute aussi que le terme n'est pas très attendrissant hein, en ce qui concerne les enfants, mais voilà. Il y a même eu, disons, mais on ne fait plus ça, il y a même eu un moment où on parlait d'agents éleveurs et d'agents élevés, donc
alors que pour nous, ce sont des enfants et des professeurs, des maîtresses, et finalement, c'est pas un hasard d'ailleurs que les processus peut-être profonds, corporels, sociaux se glissent dans des expériences qui subjectivement sont un peu différentes finalement, se cachent finalement dans des gestes qui ont une autre apparence pour nous.
Effectivement, et y compris, et qui peuvent être inconscients du côté de ceux qui socialisent et puis de ceux qui sont socialisés. C'est-à-dire que l'inconscience peut être dans les... on peut ne pas avoir du tout l'impression d'être construit. Il y a des moments où on sait qu'on est en train d'être éduqué ou qu'on est en train d'éduquer son enfant, ou du moins on espère l'être, etc. Ouais. Mais il y a énormément de moments où en fait on n'est pas du tout conscient d'être... là aussi, il y a des phrases de Durkheim magnifiques de ce point de vue-là, mais où en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire et où on ne se rend pas compte qu'on est en train d'être construit par une personne, une situation, une interaction, une pratique sociale, etc.
Alors voilà, et justement, il y a des moments de crise où ça apparaît. Wilfried Ligné, vous voulez dire quelque chose là-dessus, justement ?
Oui, sur un point peut-être particulier, peut-être que ça complétera ce que disait Muriel, c'est qu'il y a aussi une autre chose, c'est que dans cette idée de socialisation, ça fait aussi partie des idées un peu populaires du concept, même quand on comprend que c'est des questions de construction sociale, il y a une idée qui ressemble un petit peu à produire des citoyens ou produire des gens qui sont bien intégrés dans le collectif, comme vous avez dit, mais le collectif étant souvent la société française, par exemple. Or, je crois qu'un des intérêts de la sociologie de la socialisation, notamment la plus contemporaine, celle qui s'appuie sur des gens comme Bourdieu ou Laïr ou des choses comme ça, c'est d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de faire des gens génériques, en fait. C'est que les collectifs dont on parle ne sont pas...
On ne sait pas forcément a priori ce qu'on fait avec un enfant, par exemple.
Ah non, c'est
on le sait quand même. Ah oui.
C'est une autre question là. C'est pas d'accord. La question de la conscience. C'est la question de dire que, certes, il y a des institutions qui produisent du commun et qui ont une importance tout à fait certaine dans la production des enfants, par exemple. Si je prends le cas des enfants, par exemple, l'école. Mais que même à l'école et a fortiori dans des institutions qui ne se donnent pas pour objectif de produire des petits citoyens, mais par exemple des enfants qui réussissent bien dans la vie, éventuellement qui réussissent bien dans la vie plutôt que mal réussir comme d'autres enfants.
Donc déjà de manière comparée, différenciée,
on va y revenir. Il y a cette dimension effectivement non seulement différenciée, mais comme dirait ma collègue Anne Payet, différentielle. C'est-à-dire en gros, pas seulement de faire quelqu'un de différent, mais de vraiment construire sa différence sur ce que seront les autres enfants. Et ça c'est important parce que ça introduit dans le concept quelque chose qui est un peu chagrin, mais auquel moi en tout cas je suis assez attaché, c'est qu'il y a une dimension de lutte, de différenciation, de rapport entre des groupes sociaux, de genre, de rapport de classe, etc. Et on le voit bien, par exemple, dans le côté à présent, par exemple, si je reprends l'exemple de la suspension de l'école, le fait de renvoyer les enfants vers leur famille, ça va être très très différent, en fait, suivant les différentes familles, non seulement par rapport à leurs conditions d'existence, mais aussi le fait que ça soit vraiment un grand changement pour eux. Il y a des familles qui vont récupérer leurs enfants à l'école, qui vont faire dans des conditions quasi scolaires en fait
une sorte de continuité.
Il y aura une vraie continuité. L'expérience de l'enfant, je suis pas certain qu'elle soit très différente. Ouais. Il y a des enfants qui vont par exemple pas entendre parler français pendant le premier confinement, ça a été le cas pendant très longtemps. Ouais. Et donc là, évidemment, leur situation en tant qu'agent socialisé, pour le coup, elle va être très transformée.
On va revenir sur le fait que le social qui apparaît dans nos vies, c'est toujours aussi des différences et même des inégalités sociales. Vous parliez d'entendre autre chose que du français, c'est un peu ce qu'on va se permettre maintenant.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out.
London France Culture,
à présent,
Frédéric Worms.
Except for that one.
À présent, aujourd'hui, l'importance de la socialisation avec Wilfried Ligné et Muriel Darman, tous les deux chercheurs en sociologie au CNRS. Muriel Darman, vous nous proposez donc le groupe de Clash, London Calling. Est-ce qu'il y a un lien avec l'objet dont nous discutons aujourd'hui avec Wilfried Ligné et vous, cette question de la socialisation, de ces processus, de ces effets aussi, de ces différenciations, Muriel Darman, est-ce qu'il y a un message dans le London? Il y a toujours un message, forcément, mais dans un choix social. Vous avez fait un choix social, mais lequel exactement?
Oui, alors sans rentrer dans la question de la position dans l'espace des goûts culturels de cette chanson, effectivement, il y a une raison liée directement à la socialisation qui est, on pourrait dire, je reste dans le tropisme anglais après l'exemple de Robinson Crusoe en début d'émission, mais en fait, c'est parce que c'est la chanson qui est utilisée, enfin qui est une chanson phare du film Billy Elliot.
Ah oui.
Et ce film Billy Elliot me paraît intéressant, je l'utilise utilise souvent en cours avec des étudiants qui parfois ne l'ont pas vu ou l'ont vu comme un film très ancien pour eux. Mais en tout cas, pour moi, c'est un film que j'ai vu jeune et du coup qui m'a où on voit très bien la façon dont aujourd'hui on peut travailler la socialisation, c'est-à-dire pas de manière déterministe, aveugle en quelque sorte. On a un cas en fait de danseurs issus des classes populaires anglaises.
C'est ça, je me souviens, un jeune garçon qui, dans un milieu un peu improbable pour ça, décide qu'il veut danser, qu'il veut devenir danseur.
C'est ça. Et donc, on a une première lecture possible de ce film qui est de dire la socialisation, ce serait qu'il veuille devenir mineur comme son père. Et là, en fait, il y a une sorte de liberté individuelle qui le fait s'arracher à sa condition. Mais en fait, le film est très fin de ce point de vue-là pour bien montrer qu'on est dans la socialisation de bout en bout. C'est-à-dire qu'il est c'est une socialisation qu'on appelle aujourd'hui atypique. En fait, quand on voit dans le film, sa mère écoutait de la musique classique, il y a tout un disque, un tourne-disque, etc., la musique, même la danse, sa tante, etc. Donc, on a comme ça des agents de socialisation pour
reprendre ce terme, oui.
Voilà, qui sont des agents de socialisation un peu plus discrets peut-être, mais qui n'en ont pas moins été opérants. En même temps, on voit très bien comment son rapport de classe au monde, en fait, reste tout à fait incorporé et en quelque sorte dissonant, mais toujours existant avec d'autres dispositions qu'il a à danser. Et notamment, on voit très bien ça lors d'un examen. Il doit passer un examen avec une partie orale où il doit justifier, faire une sorte d'oral de motivation pour dire pourquoi il veut rentrer dans cette école de danse. Et là, on le voit complètement saisi et avec un rapport extrêmement difficile à la réflexivité et à l'explicitation, en quelque sorte, théorique.
Au code aussi, au code de langage, au code de cette parole, finalement.
Produit par le milieu.
C'est très impressionnant de votre description, effectivement, d'une socialisation complexe finalement, tendue, conflictuelle, entre un cadre social très fort malgré tout, d'autres ressources que propose le social, la musique classique, et puis tout à coup ces tensions, c'est dans une vie individuelle. Alors Wilfried Ligné, je vous voyais réagir dans, juste avant qu'on écoute London Calling, dont Muriel Darman vient de si bien parler, vous étiez en train de parler justement d'une socialisation qui n'est jamais simple, qui comporte un apprentissage des différences, pas seulement la création de soi individuelle, mais des différences sociales. Dans votre livre Prendre, on s'aperçoit que dès la crèche, finalement, de toute petite enfance, ce que décrit Muriel Darman est totalement présent. Il y a le fait de prendre un objet n'est pas seulement une pratique cognitive, une pratique corporelle, disons, distincte du social, c'est tout de suite un jeu de force sociale. On prend des objets à quelqu'un, on ne les prend pas à n'importe qui, on ne prend pas n'importe quel objet. Est-ce que c'est un peu ça, votre apprendre à prendre dans votre livre Au Seuil, Wilfried Ligné?
Alors là, vous me posez plusieurs questions en même temps, mais pour rebondir sur cette question...
Dépliez-les comme vous voulez.
Je vais les déplier tranquillement comme je veux, en disant peut-être que, rebondissant sur votre formule, c'est pas seulement l'apprentissage des différences. Alors c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé un petit peu avant avec ma collègue avec Julie Pagis sur les perceptions enfantines des différences, par exemple, entre les métiers. Donc on peut très bien travailler ces choses-là, mais je pense que derrière ces choses-là, il y a toujours une question plus importante, il me semble, qui n'est pas tant apprendre les différences qui seraient en quelque sorte extérieures à soi, qui se présentent à soi, par exemple, les différences entre métiers dont je viens de parler, mais c'est construire en fait sa différence, se construire différentiellement par rapport aux autres, de manière distincte des autres. D'accord. Et c'est pas se construire simplement, c'est être construit. Donc ce sont des processus qui prennent relation les uns par rapport aux autres. Donc peut-être en crèche, c'est ça qu'on observe dès le départ. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas tant le fait que chaque enfant fait des différences entre ses camarades, ce qui est pas certain qu'il fasse d'ailleurs toujours, y compris des différences élémentaires comme les différences de genre. Même si
il les classe pas comme ça.
Même si, par parenthèse, dans ce livre, un des résultats de ce livre, c'est de montrer que, par exemple, en termes de pratique de sociabilité, c'est-à-dire de à quel point, par exemple, les filles et les garçons vont jouer plutôt avec des filles et des garçons, on voit que déjà à 2-3 ans, dans l'espace particulier matériel de la crèche, eh bien, il y a des formes d'affiliation déjà par sexe qui sont très importantes, ce qui montre en pratique, on a des enfants qui parfois parlent pas ou parlent peu, eh bien, qui font des différences. Mais ce qui me semble plus important, et d'ailleurs qui explique, c'est-à-dire ces différences qui semblent faire en pratique, c'est que, en fait, ils sont différents les uns des autres, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, les filles jouent avec les filles, filles, c'est pas tant parce qu'elles vont vers des filles que parce qu'elles vont aux mêmes endroits, elles vont se saisir des mêmes objets qu'elles. Mm-hmm. C'est-à-dire, par exemple, elles vont aller se saisir des déguisements, par exemple. Elles vont aller se saisir de la brosse. Et en l'occurrence, le déguisement, la brosse, ben, ce sont déjà, en fait, des choses qui sont construites comme féminines socialement.
Parce que c'est des objets qui vont les rassembler, finalement.
Et effectivement. Et donc, un des enjeux de ce livre, c'était d'essayer de déjà d'attester et puis de comprendre comment ces choses-là peuvent émerger, comment certains enfants qui sont finalement, pour le dire de manière un peu j'allais dire brutale, mais en tout cas radicale, mais au moins ça permet de poser le problème, qui sont pas spécialement ni des filles ni des garçons au départ, en fait, puisque là ils sont saisis très très jeunes, ils se ressemblent même physiquement. Enfin, là, si vous coupez les cheveux d'un tout petit enfant, vous voyez pas forcément les différences entre un petit garçon et une petite fille. Et bien malgré tout, en fait, vont déjà faire avoir ce type de comportement différencié. Et il me semble que dans cette logique que j'indiquais tout à l'heure, qui consiste à dire que la socialisation c'est toujours un processus différentiel, le genre est un peu la première étape en fait de cette chose là. En fait, l'âge est important aussi, parce qu'il y a aussi l'idée de se sentir comme enfant par rapport à des adultes, quelque chose qui est très important. L'âge et le genre, peut-être avant, par exemple, des différences sociales qui seraient plus importantes.
Et puis, il y a aussi, dans votre livre, Prendre, justement, il y a aussi, il y a toutes ces dimensions qui sont aussi préinscrites dans le cadre, sans doute, d'une certaine façon. Et puis, il y a aussi du conflit, tout simplement, de la bagarre, c'est-à-dire prendre. On imagine tout de suite, effectivement, face à une sorte d'idéalisation peut-être de la petite enfance, une sociologie du prendre dans la crèche, ou je pense aussi au bac à sable dans un jardin public par exemple, c'est tout de suite une sociologie du conflit aussi, oui, du social comme conflit, et c'est fondamental aussi, Wilfried Ligné.
C'est très important ce que vous indiquez là, parce que en fait là on revient aux usages un peu habituels non seulement de socialisation mais aussi de social. C'est une idée que social ça voudrait dire bien, super, le vivre ensemble, et puis socialisation c'est l'apprentissage du vivre ensemble, et à tel point que c'est pas seulement le profane mais le savant aussi, par exemple en neurosciences, par exemple en psychologie, on parle de comportements antisociaux, ce qui pour un sociologue n'a à peu près pas de sens en fait. Parce que justement, en fait, au cœur du social selon nous, c'est-à-dire au cœur de la manière dont sont organisées les relations et les institutions dont on a parlé tout à l'heure, et dont elles sont apprises, il y a ces dimensions conflictuelles. Donc c'est sûr que quand vous étudiez des pratiques d'appropriation des choses chez les jeunes enfants...
Bah oui, la bagarre pour tel ou tel objet...
Et tous les parents de jeunes enfants connaissent ça, si les objets sont relativement rares, ce qui arrive, et rivaux, comme disent les économistes, eh bien en fait, on va éventuellement pas en avoir pour tout le monde, il y en a un qui va réussir à le prendre, donc là, ce qui va être intéressant, c'est que ce qui va être appris, ce qui va être socialisé, ça va être apprendre à exercer la bonne force pour donc c'est apprendre à avoir de la force physique parce que ça va pas de soi. Il y a des enfants qui, par exemple...
Et apprendre à parfois ne pas l'utiliser aussi.
Parfois ne pas l'utiliser, mais justement peut-être pour aller au bout de cette idée, montrer que c'est compliqué pour le coup, c'est que le fait de... Il y a des enfants qui, par exemple, ne savent pas frapper. On les voit, par exemple, quand je les observe, ils vont donner un petit coup, mais ils osent pas. Ils osent pas y aller à fond. Il y a des enfants qui savent le faire. Par contre, ceux qui savent frapper, ça va être ceux qui ont compris qu'on peut exercer une autre force, beaucoup plus efficace en créole, qui s'appelle la force symbolique, qui consiste à, alors qu'ils ne disent pas beaucoup de mots, voire presque aucun, s'il y en a un qui sait dire assez vite, ça va être, par exemple, s'il te plaît, ou il faut prêter. Et faisant ça, ils font référence à des formes d'autorité qui sont la politesse, qui sont l'autorité des adultes, qui dit tout le temps qu'il faut prêter. Et des fois, ça marche mieux, même auprès du petit garçon ou de la petite fille qu'ils ont devant eux, qui est comme saisi par le côté, ah oui, mais là, il a dit s'il te plaît. Ou là, oui, c'est vrai que c'est la question de prêter, je dois peut-être prêter. Et on voit, du coup, je vais vite, mais on voit qu'il y a des logiques, en fait, la socialisation, c'est aussi l'apprentissage de force, en fait. Et de force qu'on va exercer, qui vont produire du conflit, qui sont des manières de s'imposer, en fait. C'est assez ouvert, en fait, comme concept. C'est pas qu'un concept en fait qui consiste à parler du vivre ensemble.
Alors effectivement, on voit bien que le social c'est aussi le conflit, que quand on parle de comportement antisocial, ça veut dire que le social serait plutôt une norme, un idéal, et puis que quand on se bagarre, on est antisocial, alors qu'en fait c'est le social, c'est plutôt cette tension des deux. Muriel Darmon, j'imagine que vous êtes d'accord avec cette description, vous travaillez aussi déjà sur l'éducation, mais aussi sur la santé, on va y venir, sur les inégalités, sur finalement le social comme lieu non seulement de différence, mais de force et de conflit, de tension. Muriel Darmon.
Oui, Frédéric Worms, tout à fait. En fait, c'est ça ce qui est aussi amusant dans cette rencontre que vous avez organisée avec vous et nous, et Wilfried et moi, c'est que de fait, on aborde des objets très différents. Là, Wilfried a parlé de son très beau travail sur la crèche. Ouais. Et effectivement, donc moi, ça va être l'hôpital et les services de rééducation post-AVC ou les classes préparatoires ou l'anorexie plutôt. Et en fait, sur ces différents objets, on a des outils qui ont été assez proches, enfin, et du coup, une sorte de principe comme ça, justement, d'aller chercher le social. Wilfried a dit tout à l'heure, dans des endroits où il est vu comme autre chose comme du psychologique ou comme du mais effectivement on pourrait même dire aussi comme du biologique tout à l'heure il a Wilfried a parlé de la ressemblance en fait physique hein, entre les petits garçons et les petites filles mais voilà en gros le social produit aussi de la ressemblance en fait et
oui il agit sur les corps hein, il agit sur les corps vous le montrez très bien Muriel Darman.
Donc c'était juste pour là ce côté un peu on peut passer de terrain en terrain avec des questionnements qui vont être assez proches et effectivement pour tout ce qui est la question du conflit de la différence hein, et puis des usages différentiels en fait que ce soit des ressources symboliques ou même pratiques là c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a travaillé tous les deux sur des terrains extrêmement extrêmement différents
hein. Alors vous venez de publier Muriel Darman un livre dont j'ai cité que le titre jusqu'ici et je voudrais citer son sous-titre Réparer les cerveaux, sociologie de la perte et de la récupération dans les AVC ou en AVC, je ne sais plus c'est peut-être paraître
voilà,
à la découverte et effectivement j'étais très frappé par la précision du titre c'est-à-dire la perte et la récupération. Vous ne contestez pas, évidemment pas du tout qu'il y a des faits vitaux, biologiques, médicaux, l'AVC. Et même vous dites, au fond, il faut faire des allers-retours entre le biologique et le social. Mais par contre, aussi bien dans les processus qui conduisent à l'accident vasculaire cérébral que dans la récupération, et peut-être surtout la récupération, on retrouve ces différences sociales. C'est-à-dire, et c'est assez intuitif, on le voit bien dans la pandémie aujourd'hui, mais vous le documentez très précisément, c'est pas tout à fait pareil de récupérer d'un AVC selon le cadre social, le métier, les différents prismes sociaux finalement. Et est-ce que vous allez même un peu plus loin? Est-ce que vous pensez que jusqu'où va chez vous l'intrication du médical et du social, Muriel Darman?
Merci Frédéric pour cette question. Effectivement, elle va assez loin chez moi cette intrication. Mais c'est vrai que en plus, plus précisément, c'est vraiment dans les deux cas que je vais détailler là, c'est la question de la socialisation qui est première. C'est-à-dire que la socialisation crée les corps qui arrivent à l'hôpital, les corps qui vont développer un AVC ou qui vont attraper
la COVID,
la COVID ou déclarer une forme grave de Covid, voilà, ces corps-là, les différences entre ces corps, les différences biologiques entre ces corps biologiques sont en même temps socialement constituées. C'est-à-dire que aussi bien pour l'AVC que pour la Covid, là, les comorbidités, enfin le l'hypertension par exemple est une pathologie extrêmement inégale socialement, une de celles dont on peut, et notamment l'hypertension non traitée, l'obésité aussi, là pour le à la fois pour l'AVC et le Covid.
Oui, ça commence à apparaître d'ailleurs en ce moment dans le débat politique sur la Covid. En ce moment même, ces jours-ci, on voit les statistiques sur l'obésité, même les patients obèses les patients qui en relèvent, disons, qui commencent à se constituer comme groupe social. Pardon de vous avoir interrompu.
Mais vous avez bien fait. Et effectivement, cette obésité, elle n'est pas c'est jamais. Nous sommes sur des tendances statistiques. Donc c'est jamais du 100%. Mais l'obésité est bien plus fréquente dans les cadrans bas de l'espace social que dans le haut de l'espace social. Donc en fait, la construction sociale des corps par la socialisation. Produit déjà des corps qui vont arriver inégaux aux portes de l'hôpital, aux portes des urgences ou qui vont être inégaux dans leur ouverture et au virus par exemple. Donc ça c'est une des premières manières dont la socialisation intervient sur ces questions de santé. La deuxième effectivement, donc là c'est plus spécifique à l'AVC et à ce qui se passe enfin dans les services de rééducation, c'est que effectivement, j'ai passé une année à observer comment les différents patients étaient rééduqués extrêmement patiemment, avec énormément de dévouement, de conscience professionnelle, par les différents professionnels dans les services hospitaliers, et avoir en fait une discordance qui existe entre le mode, disons, principal dont la rééducation s'inspire, qui est un mode en fait assez proche d'un mode scolaire d'apprentissage.
D'ailleurs, on dit dire rééducation, c'est pas tout à fait
oui,
par hasard.
Rééducation. Et il y a un texte célèbre chez nous qui s'appelle l'éducation prisonnière de la forme scolaire, c'est-à-dire prisonnière de cette forme extrêmement réflexive, voilà, qui fait appel à des compétences, à des ressources qui sont là aussi tout à fait spécifiques socialement, qui sont pas apprises pareil dans la famille de Billy Elliot et dans d'autres familles, pour refaire le lien. Et donc, en fait, pour certains patients d'origine populaire, la rééducation, qui est de toute façon difficile parce qu'ils ont une lésion, parce qu'ils ont des problèmes cognitifs, parce qu'ils ont des problèmes moteurs, évidemment, mais elle est d'autant plus difficile qu'elle s'appuie sur un rapport à l'école qui, chez eux, est problématique ou tout simplement absent, en fait. Elle fait référence à des réflexes, des habitudes, un rapport au langage, un rapport à l'autorité langagière, un rapport au médecin qui, en fait, a beaucoup plus de chances de se trouver chez des patients qui ont été scolarisés longtemps et qui appartiennent aux classes moyennes et supérieures.
Donc, finalement, une socialisation en cache une autre et peut buter sur une autre. Je demanderais à l'un et l'autre vos méthodes, mais Wilfried Lignier voulait intervenir à ce point de la discussion.
C'était pour, j'ai eu la chance de pouvoir lire le livre de Muriel, et je voudrais dire qu'il y a aussi autre chose qui nous emmène un peu plus loin du corps, mais qui permet aussi de voir en fait la force de ces processus socialisateurs. Son livre, qui est pour moi un petit chef-d'œuvre méthodologique et théorique, mais montre bien aussi que c'est aussi un rapport au malheur et à l'événement. Voilà, avoir un AVC, ben ça tombe dessus. On peut dire c'est jamais une bonne nouvelle pour personne d'avoir un AVC. On pourrait dire ça assez rapidement. Puis en fait, quand on regarde ça en termes sociologiques, en termes socialisation, je trouve, en lisant les beaucoup de trajectoires dont parle Muriel, on voit aussi que, bah, suivant les groupes sociaux, ça représente des choses qui peuvent être très très différentes. Par exemple, je prends un cas limite, c'est une femme qui a une vie déjà très très difficile, très précaire, énormément de charges de travail domestique, une vie conjugale pas facile, etc., qui subit un AVC et qui représente pour elle des moments d'hospitalisation, de sortie de tous ces contextes sociaux difficiles. Et alors, à la fois, ça reste une difficulté, un malheur pour elle, mais en même temps, c'est un moment où, en fait, elle vit des choses qui sont différentes. Et je parlais de ça parce que je pense que ça a aussi une actualité par rapport à cette question de Covid.
On va y venir,
alors, évidemment, c'est pas une manière de dire super, pour certains, le Covid, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Mais je pense qu'il faut toujours voir aussi que la survenue du malheur, la survenue de la crise, la survenue de catastrophes, en fait, même si on a toujours un vocabulaire de l'universel pour en parler, et ce qui est peut-être important pour prendre la mesure des événements, en fait, de manière systématique, c'est vrai pour les AVC, mais c'est vrai pour les crises sanitaires ou les tsunamis, eh bien en fait, ça prend sens par rapport à un rapport au monde qui n'est pas seulement la question du pur corps, enfin, qui est certainement inscrite dans le corps, mais qui n'est pas qu'un état du corps, qui a un rapport au monde, qui est le produit aussi de la socialisation et de cette socialisation différentielle.
Et qui se diffracte socialement, finalement, éclate dans un milieu dense qui est nos milieux sociaux. Nous allons revenir à cette situation présente dans un instant, après avoir entendu une expression de la société, pour le coup, très contemporaine.
C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà, j'ai pas baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord de Bombardier, je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon baissé sur le palier. Comme autre tu mets au chien médaillé. Vamos los negro, allez dalle. La cuenta fut très très sale. Ta Allah, je vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te maillé. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Oh maillé. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai bataillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis pas en plein de thiéboudienne. Même noir j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa tu n'as pas d'âge. Ils veulent te maillé.
France Culture,
à présent,
Frédéric Worms.
Envoie le H, partage les millions passants.
À présent, aujourd'hui, l'importance de la socialisation avec Muriel Darmon et Wilfried Ligné. Wilfried Ligné qui nous propose ce que nous sommes en train d'entendre. Et je n'ai presque pas besoin, Wilfried Ligné, de vous demander pourquoi vous avez choisi ce morceau de Booba pour parler de la socialisation, de ce dont on était en train de parler il y a un instant, les différenciations sociales, notre société contemporaine également face à la Covid. Et ce morceau, il exprime déjà finalement quelque chose de social dans ses mots. Chacun peut l'entendre. Mais quand même, vous l'avez choisi pour une raison peut-être bien précise.
C'est étonnant que vous disiez ça. Parce que vous pensez qu'en fait, on ressent une différence particulière en...
Ah, quand même, le quartier, oui, mais... l'un et l'autre, Muriel Darmon et vous expliquez bien aussi la socialisation par l'espace.
Oui.
Et quand on dit, c'est pas moi qui...
Oui, ça,
c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi qui quitte le quartier.
Oui, c'est un peu pour ça que...
J'entends quand même quelque chose de social, pardon, même sans être sociologue, Wilfried Ligné.
Bon, brièvement, déjà, je pense que j'avais envie d'entendre Booba sur France Culture. C'est à vous que ça me fait plaisir. Je me rends compte, mais quand ça a commencé, j'avais un petit frisson en me disant « Ah, ça fait plaisir d'entendre cette chanson ici. »
C'est DKR son titre.
Oui, parce que justement, là, il est question aussi de voilà les circuits de socialisation, les choses qu'on écoute, les choses auxquelles on est exposé, ouais. Y compris, ils sont déjà ségrégés aussi, ils sont déjà différenciés. C'est aussi pour ça que les différences se produisent. Et donc, peut-être que c'est important aussi que les choses circulent d'un espace à l'autre. Mais par contre, sur le fond, effectivement, oui, il y a cette idée de on quitte pas le quartier, il est en nous. C'est vrai en fait pour Booba et c'est vrai pour n'importe qui d'entre nous. C'est-à-dire, j'avais proposé une autre chanson qui était une chanson de Nirvana qui correspondait à ma propre enfance à moi.
D'accord.
Et je pense que c'est plus une musique que j'écoute spécialement, mais je pense que dans les manières que j'ai d'être, il y a des choses qui sont liées à des formes de socialisation anciennes. Qui sont pas forcément présentes sous le mode musical, c'est-à-dire c'est pas forcément ce qu'on écoute aujourd'hui, mais par contre ça va vous apprendre, par exemple, je pense pour Nirvana, moi je dirais des fois pour le meilleur et pour le pire, un sens de l'agressivité, du combat, bon des fois de manière pas forcément très
de la revendication.
De la revendication, c'est-à-dire que voilà, je pense que ça c'est des choses qui sont intéressantes aussi sur la socialisation, ça nous amènerait trop loin, mais de voir comment des produits qui sont assez spécialisés comme la musique, etc., eh bien se cachent derrière ces produits en fait quelque chose qui est beaucoup plus général que une mélodie ou mais par exemple encore une fois des rapports au monde, c'est-à-dire un rapport plus ou moins patient par exemple, plus ou moins agressif, plus ou moins doux, plus ou moins voilà si on est un plus ou moins romantique et donc beaucoup de choses qu'on acquiert pas parce qu'on a seulement une exposition à une musique par exemple, mais parce que tout ça fait un peu système au bout d'un moment et construit un monde pour nous.
Et ce ne sont pas seulement des rapports au monde qu'on subit, mais qu'on agit, des pratiques aussi, comme vous dites, votre concept de pratique sociale et des expressions artistiques. Alors, il nous reste peu de temps, mais malgré tout, je voudrais quand même revenir aussi au contexte que nous vivons, à la pandémie, peut-être moins là sous l'angle de la socialisation. On a bien compris ses effets malgré tout, mais ça révèle des socialisations plus profondes. Mais peut-être justement... peut-être d'abord en vous demandant à vous, Muriel Darmon, voilà, je pense que on l'a bien entendu pour le travail de Wilfried Ligné sur la crèche, pour le vôtre sur les AVC, vous êtes allé sur le terrain, j'allais dire, vous avez fait des enquêtes, vous êtes immergé. Quel type de travail, Muriel Darmon, dont le livre vient de paraître sur les AVC en pleine pandémie, quel type de travail vous pensez que les sciences sociales peuvent apporter aujourd'hui face à justement, il y a ces discours un peu superficiels peut-être sur la socialisation, mais face quand même aux effets sociaux de ce que nous vivons en ce moment, Muriel Darmon, vous qui êtes au cœur des sciences sociales de la santé par vos derniers travaux.
Oui, en fait, les sciences sociales peuvent apporter beaucoup en apportant ce qu'elles ont, mais il y a une série d'enquêtes, de grandes enquêtes qui sont en train d'être déployées là. Donc, on n'a pas forcément les résultats tout de suite, mais vous les aurez sans doute bientôt, et il faudra pas hésiter à inviter les différents collègues qui le font, à la fois sur la pandémie elle-même.
Merci de l'invitation à les inviter. Je vous ai bien entendu.
Je peux vous donner une liste de noms.
D'accord,
avec le numéro du téléphone portable si vous le souhaitez. Mais non, il y a de grandes enquêtes plutôt statistiques sur en gros la pandémie, donc la maladie, qui est-ce qu'elle a atteint, qui les formes graves ont-elles atteint, comment ensuite la prise en charge s'est passée, etc. dans les services, et avec des voilà autour de nous des gens qui ont été interrogés par vagues successives, donc des données absolument magnifiques et terrible, hein, voilà, mais en tout cas scientifiquement magnifique. Il y a aussi beaucoup d'enquêtes qui ont été, donc là je parle aussi en tant que responsable d'une association de sociologues où il y a énormément de choses qui ont été faites.
Vous présidez l'Association française de sociologie, je le rappelle.
Donc là je place, après avoir placé mes collègues.
Non, mais c'est très important, ça relève des besoins de la société aujourd'hui, de savoir que ce travail-là existe.
Et du coup, là, plutôt sur le confinement et les effets du confinement et ce que ça veut dire, donc des choses aussi que Wilfried a évoqué tout à l'heure, mais ce que ça veut dire, effectivement, de devoir continuer à travailler ou pas, les enfants à la maison ou pas, voilà, tout ce qui s'est passé suite au confinement. Et on a comme ça une série de 4, 5, 6, 7 grandes enquêtes dont on va pouvoir avoir des résultats. Je ne peux pas actuellement répondre à la question sur les méthodes et puis les enquêtes sans mentionner le fait que la crise en gros actuelle nous touche aussi nous en tant que sociologues de terrain. C'est-à-dire que vous imaginez bien que pour faire de l'observation dans des services hospitaliers ou faire des entretiens avec les personnes, tout ça, nos méthodes habituelles, si on dit que la sociologie est un peu une philosophie empirique, nos méthodes habituelles d'aller recueillir des données, en fait, même en quanti, sont, disons, empêchées.
En quanti, je précise, en méthode quantitative, statistique, même la statistique devient difficile, c'est ça que vous vouliez dire, plutôt que l'enquête de terrain. Pardon, je déplie votre raccourci. Voilà. Et c'est vrai que vous-même, Wilfried Ligné aussi, si vous étiez encore en train de travailler sur les crèches ou sur les écoles, ce que je ne sais pas d'ailleurs, vous allez nous le dire, vous ne pourriez pas y aller tout simplement. Donc il y a quand même un effet déjà sur le savoir social au moment même où tout le monde s'aperçoit qu'il est nécessaire, puisque il y a quand même un effet de vérité en ce moment du social.
Oui, bah, concrètement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que normalement, j'avais négocié un nouveau terrain en fait avant la pandémie. Ça n'a pas été possible.
Enfin, alors un nouveau terrain, je traduis aussi en sciences sociales, ça veut dire l'objet sur lequel vous allez travailler sur le terrain.
Pour continuer, en fait, effectivement, sur les questions de langage en particulier, en fait, toujours en crèche, puis des choses peut-être un peu plus systématiques avec une dimension vidéo, etc. Tout était bien prévu avec la mairie de Paris. Bon, puis sinon, ça n'a pas été possible pour les raisons que vous indiquez. Mais peut-être que la discussion, là, me fait penser aussi à une autre chose qu'il faut ajouter, c'est que deux choses peut-être. La première chose, c'est que les sciences sociales peuvent être assez utiles aussi, et elles commencent déjà à travailler là-dessus, pour penser la question de la genèse de cette pandémie, parce qu'on peut imaginer que ce sont des phénomènes purement naturels, et en fait, quand on creuse, on se rend compte que c'est des phénomènes de recomposition des espaces naturels, des espaces animaux, par rapport aux espaces humains, que c'est ça qui crée des pandémies. C'est peut-être ce qui va expliquer historiquement qu'on va avoir des développements pandémiques importants, qui sont liés à simplement la mise en œuvre d'un certain nombre de relations et d'institutions, du social, donc, dans un sens qui est un petit peu à rapport avec une notion qui s'appelle le capitalisme, peut-être, mais on ne va pas aller sur ces plates-bandes-là, mais disons qu'il y a une dimension...
En tout cas, la question de la justice...
Voilà, il y a une dimension, en tout cas, la question de l'exploitation de la nature, etc., il y a une dimension très forte là-dessus. Ça, c'était le premier point sur lequel je voulais insister, c'est-à-dire qu'en gros, c'est ça aussi, faire reculer les domaines, c'est ça, je pense qu'on devrait faire, nous, sociologues, parce que c'est vrai qu'on ne le fait pas toujours, d'ailleurs, mais qu'on devrait le faire, de vraiment assumer ce rôle-là. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que s'il y a un danger que pose la pandémie pour les sciences sociales, c'est aussi, quand même, la monopolisation, en fait, des sciences sociales autour de ce sujet d'actualité immédiat. C'est-à-dire que là, on a quand même, à la fois, moi, par exemple, même personnellement, je serais très content de contribuer à cette question du Covid, mais ce qui se passe actuellement, c'est par exemple, du point de vue du financement de la recherche, on tombe sous des tombereaux de blé, faut le dire comme ça, des tombereaux de blé, de financement, je pense que le blé, les auditeurs comprendront ce que je veux dire, pour financer en fait des choses sur le ou la Covid, et j'ai peur que ça soit aux dépens en fait de recherches qui peut-être seront aussi utiles pour comprendre ce que c'est qu'une pandémie, parce que justement elle met en jeu, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, elle met en jeu les structures sociales et les relations.
Elle n'arrive pas sur une table rase.
On se retrouve dans les mêmes problèmes que connaissent des sciences beaucoup plus installées comme la physique, c'est-à-dire du rapport entre sciences fondamentales et puis sciences appliquées. Et j'ai peur que la crise pandémique nous tire très très fortement vers de l'application, alors que peut-être qu'on aura besoin de discussions fondamentales
ici,
comme celles qu'on a eues un peu aujourd'hui.
De recherche fondamentale.
Voilà, autour de c'est quoi une société, qu'est-ce que c'est que la socialisation, qu'est-ce que c'est, voilà. Donc ça, je pense que c'est un point assez important, en tout cas à mes yeux.
Donc la pandémie nous rappelle l'existence du social, l'importance des sciences sociales, mais peut aller aussi dans le sens de prédéterminer ces objets. Une des manières d'y résister, vous l'avez dit l'un et l'autre, c'est justement de revenir au fond des problèmes, à la question de la socialisation. C'est aussi, je vais vous poser la question à l'une et à l'autre, au fond, il y a une question que se posent beaucoup de gens sur les sciences sociales. Voilà, on arrive sur la question des inégalités. Le social, c'est aussi des différences. Est-ce que, quel est le lien finalement entre la connaissance du social et la volonté de le transformer, entre la connaissance des inégalités et la lutte contre les injustices? Au fond, font, comment est-ce que l'un et l'autre vous faites ce lien qui parfois fragilise les sciences sociales parce que ça, certains en profitent pour critiquer leur scientificité. On a l'impression que les inégalités sont quand même quelque chose d'objectif. Mais quel lien faites-vous? Peut-être je vais commencer par vous, Wilfried Ligné, et puis Muriel Darmon pourra y répondre et malheureusement déjà presque conclure. Quel lien faites-vous entre justement ce constat des inégalités et cette question un peu plus normative de la justice, justement?
Moi, le lien que je fais, c'est que les questions de la socialisation, quand je commençais à dire tout à l'heure que c'est le social en nous, ben ça veut dire que si c'est le social, c'est l'historique. Donc ça veut dire que c'est des choses qui ont eu lieu d'une certaine façon et qui a fait que nous sommes ce que nous sommes individuellement et collectivement. Donc si nous voulons être différents en tant que groupe ou en tant que personne, si on veut se changer soi-même, si on veut revenir sur soi et dire « mais pourquoi je suis comme ça ?» C'est dingue, ça c'est sur son histoire personnelle. Mais si en tant que société ou en tant que groupe, on dit « mais pourquoi on subit ça ? Pourquoi on accepte ça ?» Eh bien, il faut connaître en fait les éléments qui nous sont produits. Alors c'est difficile, c'est une enquête sur soi ou collective ou individuelle qui est difficile, parce qu'en fait, une fois qu'on connaît les mécanismes pour les changer, c'est pas non plus la même histoire.
C'est une autre action.
Mais c'est quand même la première étape. Et ça me permet de dire peut-être une chose très rapide, c'est que on a un problème moral, souvent les sociologues, c'est qu'on a l'impression que quand on commence à dire qu'il y a des causes sociales à la construction des personnes et des groupes, on est en train, comme diraient certains anciens politiques, de justifier justement dans le mauvais sens, de dire bah oui, les gens qui se sont comportés mal, on a parlé de les gens qui utilisent la force, par exemple.
On a l'impression qu'on les excuse déjà.
Mais ouais, je pense qu'en fait, c'est un enjeu qui est très fort, c'est de dire bah non, en fait, ces phénomènes sociaux, c'est cette socialisation, elle a pu complètement nous échapper, cette histoire sociale de nous, elle a pu nous échapper, mais prenons-en conscience, et c'est là que l'aspect normatif est important, parce que c'est la première étape pour dire qu'on pourrait faire différemment. Et ce n'est pas une question d'attribution de responsabilité. C'est une question, justement, qui est plutôt portée vers le futur que vers le passé, d'une certaine manière. C'est-à-dire, comment nous pourrions faire différemment, peut-être plus pour nous-mêmes, parce que nous sommes perdus. mais en tout cas, pour ce qui va suivre.
Mais même pour nous, il n'est peut-être pas trop tard, quand même, Wilfried Ligné. Muriel Darmon, cette question du lien entre la connaissance et finalement les transformations et la question de la justice, Muriel Darmon.
Merci Frédéric Worms. En fait, je vais être assez proche. Ce n'est pas totalement étonnant de ce que Wilfried Ligné vient de dire. Effectivement, ce qu'on apporte, et notamment avec une approche en termes de socialisation, c'est en gros une approche qui est du côté des déterminismes, de leur révélation, en fait, vraiment de leur dévoilement. C'est vraiment ça le fond de notre travail. Mais en même temps, de déterminismes qui sont historiques. Que ce soit au niveau individuel ou collectif, comme l'a dit Wilfried. Donc là, c'est ensuite ce que l'histoire a fait, l'histoire peut le défaire, a-t-il été dit. Ensuite, notre travail, c'est de montrer que l'histoire a fait tellement bien les choses que le fait de les défaire n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que de fait, quand on travaille justement en termes de socialisation, on montre comment les choses ont acquis une sorte de profondeur.
Sont devenues presque naturelles, justement. Se sont presque naturalisées.
C'est une seconde nature qui a été constituée. Mais de fait, savoir que cette seconde nature est seconde, a été constituée, donne quand même davantage de pouvoir, ne serait-ce que symbolique, sur elle, que de la considérer comme une première nature qui est toujours déjà là.
Et donc on est quand même, puisque c'est historique, c'est ça que vous dites l'un et l'autre, puisque ce qui nous constitue est historique autant que ce qui nous arrive, nous pouvons quand même encore le transformer. D'un tout dernier mot, Muriel Darmon, et malheureusement ce sera ensuite aux auditeurs et à nous-mêmes de continuer autrement. C'est un peu ça que vous étiez en train de dire, on peut transformer.
Pardon, je pensais que... Oui, eh bien, ce dernier mot, c'est oui, c'est ça ce que je vais dire. Sachant que, on peut accuser d'un côté, c'est vrai, on a entendu des accusations sur les sciences sociales d'être trop militantes, moi j'ai plutôt été élevée dans un monde où on nous accusait d'être trop déterministes.
Ah oui, c'est vrai.
En fait, ni l'un ni l'autre, en quelque sorte, on essaye juste d'être suffisamment scientifique pour faire apparaître de la connaissance sur le monde social.
Et pour pouvoir l'améliorer malgré tout. Merci infiniment à vous deux et pour cette conversation.
Merci beaucoup.
À présent, c'était l'importance de la socialisation dont nous parlions aujourd'hui avec Muriel Darmon et Wilfried Ligné, avec et grâce aussi à Marie-Claire Oumabadi, Alexandre Dang, Jeanne Delecroix, Sandrine Chaperon, Léa Cameron-Fosso, Al-Pascal Levigne, Frédéric Worms. À présent, c'est fini, mais ce sera rediffusé dans quelques instants en français dans le texte par Olivia Gesbert.